Alors, on va depuis le début de l'année, le pasteur a commencé à enseigner sur quoi? Vous vous souvenez sur quoi le pasteur enseigne? Ok, rassurez-moi, vous vous souvenez, hein? On ne lui dira pas si, mais vous vous souvenez quand même. Le pasteur a commencé à enseigner sur les décisions. Le premier message qu'elle nous a apporté, c'était nos décisions. Elle nous a expliqué que nos décisions nous donnent les directions et que les directions nous donnent la destinée. Donc, à vrai dire, la direction dans laquelle vous êtes est due à des décisions que vous avez prises, bonnes ou mauvaises. Il suffit de regarder, ok, j'aime pas la direction, ben, je peux changer de décision. Je peux prendre des décisions qui sont différentes et qui vont me ramener dans une autre direction. J'aime pas, à vrai dire, je veux dire, Dieu n'aime pas, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça n'a rien à voir si on aime ou on ne m'aime pas. Le tout est de savoir qu'on est dans la direction que Dieu nous a dit. Après, c'est un autre problème. Conditions pour prendre de bonnes décisions. Le deuxième, c'était la deuxième prédication qu'elle nous a donnée. On a vu ensemble que les conditions pour prendre des décisions, la première condition, si vous vous souvenez ce que c'est? Un cœur libre. C'est-à-dire que quand vous devez prendre des décisions, assurez-vous que votre décision ne va pas être motivée par la colère. Combien de gens ont quitté des emplois, ont quitté leurs conjoints, ont quitté des églises parce qu'ils étaient sous un excès de colère? Ce n'est pas une raison. En tant que chrétien, ce n'est pas une raison. Parce que ce que j'ai vu avec le temps qui passe, c'est que quand on prend des décisions sous la colère, sous l'offense, sous la peur, généralement, ce ne sont pas de bonnes décisions. Ce ne sont pas des décisions. Et quand on est tous tentés, on a tous été là, ou alors on trempe dans nos bottes et on dit, il faut que je trouve une solution, et hop, on ouvre la première porte qu'on trouve. Ça vous est déjà arrivé? Amen, moi ça m'est arrivé. Nos décisions devraient être des actions, écoutez bien, et non des réactions. C'est pas mal, hein, non? C'est-à-dire qu'on ne cède pas en tant que chrétien, je parle à des chrétiens, je ne parle pas au monde. En tant que chrétien, on a d'autres manières de faire parce qu'on a d'autres moyens que le monde. En tant que chrétien, pour prendre des bonnes décisions, il faut que notre cœur soit libre. Deuxièmement, qu'on ait un cœur humble. C'est-à-dire que si vous savez tout, si vous, si, si dans, mais non, c'est pas la peine que tu parles, Dieu, parce que je sais, je sais, je sais. Il y en a un qui en a fait une chanson, hein, je sais. Et mais à la fin de sa chanson, il s'est aperçu qu'il ne savait pas autant. Mais si on dit à Dieu, non, je sais, eh bien tout simplement, Dieu n'a plus rien à nous dire. Donc si dans nos décisions, on a cette attitude, non, mais tu comprends, moi j'ai tout calculé, c'est bon, je sais dans quelle direction, bon, ben, ce n'est pas la peine de s'attendre à ce que Dieu parle. Et entre nous soit dit, juste entre parenthèses, vous savez que Dieu parle souvent au travers des autres. C'est très rare que Dieu vous écrive en noir sur un mur blanc. C'est très très rare. À qui c'est arrivé d'ailleurs? Non. C'est très rare. Très très rare. Ou que ça soit écrit dans le ciel. Vous ouvrez la porte le matin, vous sortez précipitamment et ne prends pas cette décision. Non. Souvent le Seigneur, comment il parle? Il va parler au travers de quoi? La parole, il va parler au travers de la communion que vous avez, il va parler au travers des uns et des autres. Et une des façons, une clé, je dois dire, pour entendre Dieu, c'est d'avoir un cœur ouvert. Ça va avec un cœur humble. Si on n'a pas un cœur ouvert, si je n'ai pas un cœur ouvert, ça va être très très difficile d'entendre ce que Dieu a à dire. Qu'est-ce que j'entends par un cœur ouvert? C'est-à-dire un cœur qui est prêt à entendre ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Éventuellement, je suis prête à entendre. Comment savoir si j'ai un cœur ouvert? Ben, tout simplement, regardez ce qui se passe quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est contraire à ce que vous aviez pensé, décidé, et voyez votre réaction. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on est... Il y en a qui rigolent. Ça ne veut pas dire parce qu'on est ouvert qu'on va accepter ce qui nous est dit, mais ça veut dire qu'on va au moins recevoir la possibilité que, éventuellement, blablabla. Bla, bla. que éventuellement il y aurait une autre solution à laquelle on avait pensé. Alors ça ne veut pas dire qu'on va la suivre, mais ça veut dire qu'on va être ouvert à ce que. J'ai plein de choses à dire, mais je ne vais pas les dire parce que je veux passer à autre chose. Eh oui, vous échapperez, non, je plaisante. Donc, on a vu que le premier point, c'était un cœur libre. Le deuxième point, c'est un cœur humble, c'est-à-dire un cœur ouvert. Troisième point que le pasteur a expliqué, c'est vouloir la chose pour les bons motifs. Il est certain que si on a des mauvais motifs, devinez, on va prendre les mauvaises décisions. Par exemple, si vous voulez, je dis n'importe quoi, hein, vous marier, et vous absolument vous voulez vous marier, vous avez rencontré quelqu'un, et absolument vous voulez vous marier, et que vous voulez vous marier non pas parce que vous êtes sûr de l'amour et que Dieu vous a donné cette personne, mais pour entrer dans le moule social, parce que vous ne voulez pas rester seul, parce qu'il y a la pression, et je sais ce que c'est, je suis célibataire, donc je sais. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Toutes ces choses, toutes ces pressions viennent. Mais vous savez, ce n'est pas une raison. On devrait épouser simplement quelqu'un parce que tout simplement, on sait que Dieu est dans ce business. Entre guillemets, hein, je m'entends business. Et mais si je n'ai pas, ou dans des promotions, ou être dans le ministère, si vous voulez être dans le ministère parce que vous voulez être reconnu, mauvais motif. Si vous voulez être dans le ministère parce que tout le monde comme ça semblera croire que vous êtes spirituel, mauvais motif. Parce que si c'est ça nos motifs, on prendra la première occasion qui se passe. Et la première occasion, tout le monde sait, ce n'est pas forcément la bonne. Donc, on a vu que le troisième point, c'était pour prendre de bonnes décisions, c'est vouloir la chose pour les bons motifs. Maintenant, je voudrais voir avec vous quelque chose d'autre. 2 Corinthiens 1:17. Et c'est bien parce que, vous savez, à l'Église, on devrait parler de choses complètement pratiques, entre autres. On doit parler de choses théologiques, mais on doit également parler de choses pratiques parce que c'est ça qui fait la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, ce n'est pas de grandes idées, de grands préceptes, c'est la vie de tous les jours. Et c'est les préceptes qu'on applique à la vie de tous les jours. 2 Corinthiens 1:17. Et je vais prendre une autre version également que je vous lirai tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est Paul qui parle. Et Paul, à cette époque-là, avait fait des projets d'aller visiter certains chrétiens dans une partie du monde. Et il s'avère que les projets qu'il avait formés ont été contrariés et ça ne se faisait pas. Et certains lui ont dit, et il va reprendre les arguments qu'ils lui ont dit, « Est-ce qu'en voulant cela, j'ai usé donc de légèreté ?» Il y avait des gens qui disaient « Oui, parce que tu ne l'as pas fait, donc tu as pris les choses, tu as pris tes décisions à la légère. » Ou bien « Mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non ?» C'est assez intéressant parce que la Bible, ici, nous donne un détail que je dois dire qui ne s'adresse qu'aux chrétiens. Il est dit « Des résolutions selon la chair. » Des résolutions quoi? Bon, c'est des décisions, c'est ce qu'on a l'intention de décider, ou c'est ce qu'on a à décider. Et il est parlé ici de résolutions selon la chair. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, s'il y a des résolutions selon la chair, devinez quoi? Il y en a aussi selon l'esprit. Si Paul fait une distinction entre des résolutions selon la chair, ça veut dire qu'il y a aussi des résolutions selon l'esprit. Et c'est pour ça que je dis que ça ne s'adresse aux chrétiens, parce que la Bible nous dit que les gens du monde ne peuvent pas saisir ce qu'il y a dans l'esprit. Par contre, vous et moi, on peut se saisir de ce qu'il y a dans l'esprit. Et Paul nous dit ici, il y a des décisions qu'on peut prendre selon la chair, et il y a des décisions que vous, chrétiens, vous devez prendre selon l'esprit. Alors, une résolution selon la chair, c'est quoi? Vous allez voir, ça va venir encore plus évident quand on va le lire dans une autre version, qui est la parole vivante, je pense. Oui, parole vivante, où il est dit, « Tel était mon projet. Ai-je donc agi avec légèreté en le concevant? Suis-je instable et capricieux parce que j'ai changé mes plans? Ou bien, mes résolutions seraient-elles, écoutez bien, c'est vraiment très intéressant, ou bien, mes résolutions seraient-elles inspirées par des motifs purement humains, par des arrière-pensées ou par l'humeur du moment, tout comme celle des gens du monde, en sorte que si je dis oui, cela pourrait bien signifier non, et que mon oui aujourd'hui sera un non demain. Qu'est-ce que nous dit Paul ici? Il est en train de nous dire, est-ce que moi, Paul, j'aurais pris des résolutions qui étaient uniquement basées sur l'humeur du jour? Et c'est ça la définition de décisions prises selon la chair. Ce sont des décisions qui vont être complètement et ne vont être que basées sur la façon de sentir la chose, l'humeur qu'on a, si on est irrité, pas irrité, les circonstances, nos calculs, nos raisonnements. On voit une situation et on commence à analyser la situation, on commence à penser la situation et on se dit, bon, si ça est là, donc ça veut dire que, au regard de ce que je vois dans le naturel, ça veut dire que donc, la décision que je dois prendre est celle-ci. Combien d'entre nous avons pendant des années pris ce genre de décision? Amen. Avant d'être dans le Seigneur, on ne savait même pas, je ne savais même pas qu'il y avait moyen de prendre une décision complètement différemment que le fait d'analyser ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que la logique disait, ce que la sagesse humaine disait. Par exemple, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que Paul nous dit ici, vous avez noté que ce genre de décision, c'est grosso modo oui et non non de temps en temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Que quand on prend ce genre de décision, on va prendre des décisions, mais ça ne sera pas une vraie décision stable. Pourquoi ce genre de décision ne peut pas avoir de la sécurité? Parce que tout simplement, dans une décision, il y a une part d'inconnu. Automatiquement, on ne sait pas quel est, le produit n'est pas garanti. Et quand on prend des décisions uniquement basées sur ce que l'on voit, sur ce qu'on a ressenti, eh bien uniquement, c'est basé que sur nous-mêmes. Par exemple, vous avez un problème financier, un gros problème financier, et d'un seul coup, on vous offre un travail magnifique. Et selon la chair, on va analyser, on va calculer, on va dire, bon, écoute, d'accord, j'ai un gros problème financier, et si je vais à cet endroit, donc je devrais toucher tant, bah, d'ici, allez, 3 mois, c'est rétabli. C'est possible que ça soit Dieu, complètement possible, mais pour savoir si c'est vraiment Dieu, on ne peut pas s'arrêter à ça. Parce que réellement, on va dire ça devrait me sortir, mais c'est la supposition parce que vous ne connaissez pas s'il faut dans 6 mois la boîte ferme. Et on se retrouve dans une situation qui est pire. Voyez, avec des décisions selon la chair, ce sont des décisions qui ne sont basées que sur le présent et ce sont des décisions qui ne vous assurent en aucun cas du résultat. Et pendant des années, moi j'ai pris des décisions selon la chair. Et parce que je ne savais pas que c'était autrement possible de faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'une décision selon l'esprit? Ça vous intéresse? Eh bien, revenons la semaine prochaine. Non. Regardez Ésaïe 33. Ésaïe 30. Non, le Seigneur est bon. Il nous donne sa sagesse. Vrai ou pas? Amen. Il nous donne sa sagesse, le Seigneur. Regardez en Ésaïe 31. Alors, écoutez, ce verset, quand j'ai étudié, je ne l'avais pas. J'avais étudié, je ne l'avais pas. Et juste avant de partir, hier soir, je me dis, oh tiens, je vais regarder vite fait une autre écriture, en fait, qui était Ésaïe 29. Et à ce moment-là, j'étais en train de regarder Ésaïe 29, et mes yeux sont allés sur Ésaïe 31. Et alors là, j'avais envie de hurler dans mon salon, de dire, aïe, 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 Seigneur, c'est toi qui fais ce message, parce qu'il m'a donné la définition d'une décision sans l'esprit. Regardez ce qui est marqué. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions, des décisions, on peut dire, sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. Voilà une décision qui est complètement déconnectée d'une décision de l'esprit. Qu'est-ce qu'une décision de l'esprit? Une décision de l'esprit, c'est une décision qui est connectée à Dieu. C'est-à-dire que vous n'allez plus prendre... Où est-ce que Dieu parle? En tant que chrétien, où est-ce qu'il parle? Absolument, il parle au cœur. Donc, une décision selon l'esprit, c'est une décision qui va être connectée selon ce qui se passe dans votre cœur. Et pour reprendre un peu mon exemple avec le problème financier, eh bien, tout simplement, il y a des fois où vous avez un problème financier, vous avez juste l'occasion d'un super job avec un super salaire, et vous regardez dans votre cœur, et ouais, le Seigneur dit oui, vas-y. Les circonstances vont vous dire, vas-y, ça c'est clair, les circonstances vont le dire. Et il y a d'autres fois, vous regardez dans le cœur, et le Seigneur va dire, vas-y aussi, et c'est OK. Mais c'est bizarre, il y a d'autres fois où le Seigneur va dire, et hier soir on avait un témoignage justement à ce propos, et il y a des fois où les circonstances vont dire, vas-y, et vous regardez dans le cœur, et oh, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas dire concrètement, voilà, le Seigneur m'a dit, mais si on est honnête avec nous-mêmes, on n'a pas l'approbation de Dieu. Est-ce que ça est déjà arrivé à certains? Amen. Et on voit que, à ce moment, un chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il devrait prendre sa décision selon ce qu'il a dans le cœur. Faites confiance à ce que Dieu a mis dans votre cœur. Un chrétien ne prend pas sa décision selon les circonstances, selon l'extérieur. Il ne prend pas ses décisions selon lui-même, c'est-à-dire ses émotions, ses raisonnements, ses calculs. Un chrétien va prendre ses décisions premièrement selon ce qui se passe dans son cœur, selon ce que lui a dit. Et en plus, c'est très rassurant parce que pour ceux qui en ont fait l'expérience, une fois que Dieu a parlé dans le cœur, qu'on a trouvé ce qu'il a dit, est-ce que vous avez déjà vu qu'il y avait l'assurance qui vient avec? Amen. Il y a l'assurance, il y a la foi qui est là. Et même si ça ne veut pas dire que notre tête comprend tout, mais quand Dieu a parlé, c'est comme si, clac, vous savez, c'est un peu le même, si vraiment Dieu a parlé, c'est un petit peu cette même sensation quand vous mettez une pièce dans un distributeur de boissons. Vous savez, la canette qu'on retire. Vous mettez la pièce et ça fait, à un moment, vous entendez, cling, quelque chose s'enclenche. Quand Dieu a parlé, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, tout simplement, soyez ferme dans le fait d'écouter votre cœur. Même si tout hurle autour de vous, que oh là là, c'était le bon coup, il fallait le prendre. Si vous n'avez pas cette confirmation dans votre cœur, attendez, ne vous précipitez pas, Dieu va vous reparler si vous avez un doute. Et un exemple, oh combien vrai, mais combien désolant, c'est l'expérience qu'a fait Ayrton Senna. Si vous avez déjà entendu un petit peu des reportages sur ce qui s'est passé quand il a eu son accident, qui lui a coûté la vie, il est dit que Ayrton Senna, avant la course, avait dit, oh, si je m'écoute, je ne la fais pas. Il y avait quelque chose au fond de son cœur qui disait, ne fais pas. Je crois que d'ailleurs, Ayrton Senna était chrétien. Il se revendiquait comme chrétien. Il y avait quelque chose, d'après vous, c'était ce quelque chose, c'était quoi? La Bible dit que Dieu parle à nos cœurs, que l'Esprit Saint parle à nos cœurs. Dans son cœur, il y avait quelque chose en lui qui disait, ne le fais pas. Pourtant, quand il regardait à l'extérieur, la piste était normale, il y avait les sponsors de toute façon qui étaient là. Tout était fait pour que ça se passe comme d'habitude. Combien de gens avec, quand le World Trade Center a été, quand les avions sont rentrés dans ces tours, combien on a entendu de témoignages où les gens disaient, c'était un jour normal dans les apparences, mais au fond de mon cœur, il y avait juste quelque chose qui disait non, ne fais pas. Alors, c'est valable pour le « non, ne fais pas », mais c'est valable aussi pour le « oui, fais ». Parce que souvent, on pense que « non, non, non ». Et des fois, le Seigneur dit « oui, fais, vas-y ». Même si tout semble défavorable. Et il y a des fois, tout semble favorable et Dieu dit « oui ». Ce n'est pas tellement ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce que Dieu est en train de vous dire à vous personnellement. Seulement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'a pas forcément toujours envie d'entendre ce que Dieu a à dire, vrai ou pas? Bien sûr, des fois on n'a pas tout simplement le réflexe de demander à Dieu, parce qu'on a peut-être vécu 40 ans sans Dieu et on a été habitué à prendre nos décisions selon notre chair, tout simplement selon les circonstances, selon ce qui est visible, selon ce qui s'analyse, selon ce qui se raisonne. Peut-être pendant 40 ans et c'est une éducation. La vie chrétienne est une éducation. Deuxième point, c'est que c'est vrai que quand on marche avec Dieu, il y a une chose que j'ai appris en marchant avec Dieu, c'est que Dieu a besoin qu'on soit honnête. C'est la seule, à vrai dire, c'est la seule condition, l'honnêteté et l'obéissance, je crois. C'est les seuls, pas les seuls, mais deux points est vraiment très très importants dans notre marche. C'est-à-dire que si vous demandez à Dieu, alors écoutez bien, il y a des chances que vous soyez contrarié dans vos projets. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai voulu quelque chose et Dieu n'a jamais dit oui. Il y a plusieurs choses, d'ailleurs, qui n'ont jamais dit oui. Mais une des choses, c'était que je parte en mission. Ah, mon cœur était pour les missions. Mon cœur était pour l'Afrique, entre autres. Ah, je voulais tellement partir. Tellement partir. Mais vous savez, dans l'extérieur, j'aurais pu m'arranger. Un jour, j'étais tellement malheureuse. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, vas-y, hein, tu te reconnectes avec l'école où tu as été formée. Et là, il y a plein de missionnaires, ils t'enverront. Et je dis, non. Parce que si je sais que Dieu ne m'a pas dit, vas-y, eh bien, j'irai pas. Et tout simplement, j'avais cette envie, tout criait en moi, de partir en mission. Mais si j'étais honnête avec moi, je ne pouvais pas dire que Dieu m'a dit, vas-y. Et dans ce cas-là, conseil d'amis, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Troisième raison pour laquelle on ne demande pas à Dieu ou on n'attend pas sa réponse, parce que ça c'est un autre aspect, c'est qu'on est impatient. L'impatience est un des pièges du... C'est pour ça que souvent Paul ou Jacques nous a dit « Soyez patient, développez la patience ». Pourquoi ? Parce que souvent, notre chair, elle dit « Allez, j'ai fait mes calculs, c'est tout bon, ça tombe sous le sens, allez, on y va !» Et pendant tout ce temps, Dieu dit « Il ne veut pas patienter un peu, là ?» Parce que s'il attend juste un tout petit peu, je lui fais prendre la bonne décision et ça sera une réelle bénédiction. Regardez avec moi, on va regarder un exemple. Une façon de dire qu'une décision est bonne, c'est de voir une décision, de prendre une décision dans laquelle on peut trouver Dieu. Si dans les décisions que vous prenez, vous ne trouvez pas la vie de Dieu, vous ne trouvez pas Dieu avec vous, si dans les décisions que vous prenez, vous ne pouvez pas brancher votre foi, normalement une décision, vous savez qu'une décision qui est de l'esprit est une décision dans laquelle on peut mettre notre foi en action. Parce que tout simplement, là où il y a Dieu, il y a la foi. S'il y a la foi, il y a Dieu. Ok. Regardez un exemple flagrant d'une décision selon la chair. Ça vous aide ou ça vous barbe? Moi, ça m'a aidé. Ça m'a rafraîchi. Ça m'a... Oh, combien c'est bon, la sagesse de Dieu. 1 Samuel 13, 8. Ici, on va voir... Un exemple, mais alors flagrant. Il se trouve que Saül était avec son peuple en temps de guerre. Et Samuel, qui était le serviteur de Dieu, les Hébreux avaient une ligne de conduite qu'ils s'étaient donnée, ordonnée par Dieu et qu'ils plus ou moins respectaient. C'est qu'avant de passer à la guerre, c'est-à-dire avant de prendre une décision de monter à la guerre, ils consultaient Dieu. Dites-moi si des gens qui étaient sous l'ancienne alliance consultaient Dieu, est-ce que d'après vous, des gens qui sont sous la nouvelle alliance devraient consulter Dieu? Amen. À combien plus forte raison? Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous, on peut directement aller devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me dis dans cette décision? Si vous aviez été dans l'ancienne alliance, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Vous auriez dû aller voir le sacrificateur et il aurait été pour vous devant la face de Dieu. Il vous aurait dit oui ou vous aurait dit non. Donc, c'est ce qui se passe là. Saül est avec ses troupes. Et Samuel est parti et a quitté le campement. Et il doit revenir pour donner le oui ou le non de l'Éternel à Saül. Et en fonction de si c'est oui ou si c'est non, s'ils ont la faveur de Dieu ou pas, ils vont passer à l'action. Mais il y a tout un contexte ici, verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. » Et continue à lui dire ce qui va se passer. Ici, on voit une décision d'un homme qui connaissait l'Éternel et qui n'a pris une décision uniquement sur la base de la chair. Bon, c'est clair que Saül était dans un temps de pression, vrai ou pas? Ben bien sûr, parce qu'il y avait, ici il nous dit, il a vu que le temps fixé allait être dépassé. Il y avait la pression du temps. Il y a un deuxième élément, il y avait la pression des circonstances. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a vu que les ennemis étaient à la porte du camp. Donc, il se dit, à tout moment, ils peuvent attaquer. Donc, en situation de grand danger. Et troisièmement, il y avait la pression des siens. C'est-à-dire que le peuple, ici, était en train de probablement dire, « Mais Saül, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on fait là? Attends, on n'a pas encore donné le sacrifice, qu'est-ce que c'est? Mais où est-ce que, qu'est-ce que tu es comme genre de leader? Où est Saül ?» Et blablabla. Et le peuple devait mettre la pression parce que le peuple avait peur. Et le peuple a fait, en fait, passer ses peurs sur Saül. Et Saül est allé sous la pression. Et on voit qu'à partir du verset 11, ce n'est que calcul, ce n'est que déduction et compagnie. On voit que verset 11, regardez ce qui est marqué, c'est un passage qui est extrêmement intéressant. Il nous dit verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, c'est-à-dire Saül en train de dire à Samuel, j'ai fait le calcul, il y avait ça et il y avait ça. Et regardez la suite, et il a dit, je me suis dit, Saül a fait le calcul, 1, 2, 3, décision à prendre, conséquence logique. Eh bien, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Il a calculé, il a déduit et ensuite il est passé à l'action. Il a décidé. Le prochain verset va nous décrire exactement comment ça s'est passé. Vous savez, il a tablé sur une décision, mais ce qu'il avait tablé était tout faux. Tout avait été faussé parce que tout n'était que supposition et déduction. Alors, évidemment, quand on est en temps de crise, quand on est particulièrement, je veux dire, dans cet état-là, c'est pas toujours évident de savoir prendre une décision, non? Mais je vais vous donner, et tout le monde dit, oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Quand ça bombarde, c'est pas évident. Mais, vous savez, je vais vous donner trois trucs qui, quand vous êtes en temps où vous avez du mal, premièrement, ce sont trois trucs, mais qui ne devraient que confirmer ce que Dieu a mis dans votre cœur. Mais si vous avez des difficultés à savoir appliquer ces trois trucs, où elle est notre amie Cathy? Ah, elle est de l'autre côté. Elle sait pourquoi je lui ai dit ça. Et si vous mettez... Vous verrez que ça vous aidera à savoir si c'est une décision qui vient de l'esprit, qui vient de Dieu et qui est réellement du cœur ou de la tête. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit que Saül savait très bien que ce n'était pas son rôle d'offrir un sacrifice. Saül savait très bien que ce n'était réservé et que réservé au sacrificateur, au prophète. Et malgré tout, il a pris sa décision. Ça me dit que si vous réalisez que la décision que vous allez prendre est en opposition avec les principes de Dieu, je peux vous garantir, ce n'est pas une décision qui vient de Dieu. C'est aussi simple que bonjour. Dieu ne va pas vous dire de faire quelque chose qu'il condamnerait dans sa propre parole. Dieu est cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que si dans sa parole, vous avez compris quelque chose et que ça s'applique à votre situation et que dans votre cœur, il semble que Dieu vous donne une direction qui n'est pas en accord avec cette parole, ça ne peut pas venir de Dieu. Par exemple, si Dieu vous dit, vous aimez la femme du voisin et Dieu, vous êtes célibataire et Dieu vous dit, bah tu vois, ta prochaine, Dieu vous dit, soi-disant, ta prochaine femme. Bon, c'est un exemple qui est gros, mais bon, c'est, malheureusement, c'est déjà arrivé. Ta future femme, c'est la femme du voisin. Non, il y a un souci. Vous pouvez laisser tomber l'idée parce que c'est même pas la peine de toucher cette idée-là. C'est impossible. C'est impossible que Dieu, pour vous donner une femme, aille choisir une femme mariée. Parce que c'est à l'inverse de tous ces principes. Alors, c'est bon, là, c'est un exemple qui est gros, mais qu'est-ce que vous avez réalisé de la parole de Dieu? Et en fonction de ce que vous avez réalisé, filtrez la décision que vous allez prendre. En d'autres mots, une décision de l'esprit ira avec l'esprit de la parole. C'est dans le même, une décision qui vient de Dieu sera dans le même ton que l'esprit de la parole. Deuxième, on voit, donc on a vu que Saül a pris une décision qui était complètement en opposition avec les principes de Dieu. Deuxième chose que l'on voit, et regardez, c'est vraiment intéressant, verset 12, qu'est-ce qui nous y est dit? C'est alors que je me suis fait quoi? Violence. Saül, dans son cœur, ça me dit quoi? Ça veut dire que Saül, dans son cœur, s'il avait été honnête et s'il avait accepté de vraiment regarder dans son cœur, il aurait su que ce n'était pas de Dieu, parce que pour accomplir, pour prendre ses décisions, il a fallu qu'il se fasse violence. Si dans votre vie, vous êtes sur le point de prendre une décision et que d'une manière ou d'une autre, pour prendre cette décision, vous êtes obligé de vous faire violence. Faire violence, c'est quoi? Faire du forcing, non? Vous êtes obligé de vous forcer à faire quelque chose. Hé, feu rouge, attendez, reculez et laissez les choses se décanter. Vous allez voir si Dieu dit toujours la même chose. Le forcing, c'est quoi? Ben, le forcing est au naturel ce que la foi est au spirituel. C'est pas mal, hein? Le forcing est au naturel ce que la foi est au spirituel. C'est-à-dire, avec votre foi, vous allez chercher les choses qui vous appartiennent. Avec du forcing, c'est un moyen naturel d'aller chercher ce qui nous appartient. Ou ce qui ne nous appartient pas, parce que même ce qui nous appartient ne doit pas être pris par forcing. Ce qui nous appartient doit être pris par la foi. Et là où il y a la foi, il y a la liberté. Quand il y a la foi, vous savez, quand Dieu est dans une décision, vous n'aurez pas besoin de vous faire violence, parce qu'il n'y aura pas de confusion. Quand vous regarderez dans votre cœur, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de colère. Non. Généralement, quand on trouve, quand Dieu a parlé, il y a la paix, il y a la joie, il y a la foi. Alors, ça ne veut pas dire que votre tête va être en accord. Mais si vous prenez le temps de rentrer à l'intérieur, comme dit la parole, eh bien, vous vous direz, ok, peut-être que ça me fait peur, peut-être que, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire, peut-être que je ne me sens pas à la hauteur, peut-être que, mais si je regarde dans mon cœur, c'est ok. Je ne sais pas où on va, mais quand je regarde dans mon cœur, je sais que, c'est pas que ça va, ça ira éventuellement, c'est que ça va aller. Écoutons notre cœur. Une décision qui est une bonne décision va porter les fruits de l'esprit avec elle. Troisième point et dernier point, si vous ne savez pas si votre décision est une décision vraiment que vous avez reçue de Dieu, premier point, regardez s'il va avec l'esprit de la parole. Deuxième point, regardez s'il y a les fruits de l'esprit dans cette décision, c'est-à-dire paix, joie et la confiance en Dieu. Et troisième point, prenez conseil auprès de gens spirituels. Quand je dis des gens spirituels, on voit ici, est-ce que Saül, c'est dans ce temps de pression, parce que c'est OK, tout le monde, c'est pas facile d'aller sous la pression. C'est pas facile de prendre certaines décisions. Mais Saül, avec ce qu'il connaissait, est-ce qu'il n'aurait pas dû chercher le conseil de gens spirituels? Bien sûr, on voit que Saül est resté isolé dans sa décision. Et quand vraiment ce sont des situations qui sont importantes, des grosses décisions, normalement ça va être confirmé dans le cœur de d'autres. Et quand vous annoncerez ces choses-là, tu sais, ça ne m'étonne pas. Ah, tu te maries? Eh bien, ça ne m'étonne pas. Vraiment, le Seigneur, ça ne m'étonne pas. Depuis quelques temps, je te regardais et je me disais, celui-là est bon à marier. Ça peut se passer comme ça. Mais vous savez, bon, alors ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec vous. Mais si autour de vous, vous prenez le conseil de gens spirituels et vous ne voyez que... Non, attends, t'es sûr de ce que tu fais? T'es sûr? Non, écoute. Et que vous voyez cette réaction, mettez sur pause. Laissez Dieu confirmer. Laissez Dieu parler. Et quand je dis des gens spirituels, je ne dis pas de gens qui forcément portent un titre. Quand je dis des gens spirituels, je dis des gens qui ont fait leur preuve, qui ont vécu par l'Évangile, qui ont des fruits qui sont de l'Évangile, qui ont des fruits qui sont démontrés. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un parle un langage spirituel qu'il est spirituel. Quand je dis demander, aller, essayer de demander conseil avant même de prendre une décision ferme et définitive. Parce que des fois, quand on a pris notre décision, on l'a tellement prise qu'on ne veut même plus rien entendre. Et à un moment, il va falloir avoir cette réaction. Mais assurez-vous que la décision que vous prenez, elle soit vraiment de l'esprit. Voilà, ça c'était mes trois points. On voit que la décision que Saül a prise était en opposition avec l'esprit de la parole. On voit que la décision que Saül a prise ne portait pas les fruits de l'esprit de quelqu'un qui marche dans la foi. On voit que la décision que Saül a prise était complètement déconnectée d'anciens et de gens qui portaient l'esprit de Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur. Alors, ça va être assez intéressant parce que quand on prêche, le pasteur ne me dit jamais « il faut que tu prêches ci ou prêches là ». En fait, à vrai dire, elle ne sait même pas ce que j'ai prêché. Donc, je sais qu'elle a encore un dernier message sur les décisions qu'elle apportera, je suppose, je ne sais pas, la semaine prochaine. Et ça va être intéressant de voir ce que le Seigneur a à dire, non? Parce que pour moi, si Dieu met autant l'accent, parce que j'aurais pu vous apporter un autre sujet, hein, je ne prends pas spécialement, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas autre chose? Non, c'était les décisions, donc c'est assez intéressant, ça me dit qu'on va avoir besoin de ces sagesses. On va avoir besoin de prendre des décisions telles que les chrétiens doivent les prendre. Et vous savez, quand on prend des décisions à la manière de Dieu, devinez, qu'est-ce qu'on a? Les réponses, les résultats de Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir les résultats de Dieu, voient des gens qui marchent avec Dieu et qui ont des résultats sensationnels. On voit qu'ils ont prospéré à tous égards, comme a prospéré l'état de leur âme. Ils disent, ouais, c'est ça. La décision, une décision arrive, un moment crucial arrive, et ils veulent les résultats, mais ils ne sont pas prêts à prendre les décisions à la manière de Dieu. Prendre les décisions à la manière de Dieu, et vous en avez probablement tous fait l'expérience, n'est pas forcément la décision la plus facile. Ce n'est pas forcément la décision la plus facile. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est la décision la meilleure. Elle n'est pas forcément la plus facile, mais elle est la meilleure, et elle va être celle qui vous amènera où? Dans la bonne direction. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je suis contente parce que vous savez, on n'est pas obligé de vivre comme le monde. On n'est pas obligé de vivre au niveau du monde. L'Église de Jésus-Christ devrait être à un niveau bien supérieur. Bien supérieur. Bien supérieur dans ses décisions. Bien supérieur dans sa sagesse. Bien supérieur dans ses idées. On n'a pas besoin de vivre comme quand on était sans Christ. Gloire à Dieu. Amen.